E-Radio, le bloc-notes d'Albrecht Sonntag.
Comme toutes les semaines, nous retrouvons Albrecht Sonntag de l'ESCA, École de Management à Angers. Bonjour Albrecht.
Bonjour Laurence.
Albrecht, 11e édito en temps de guerre, avec une semaine des plus bizarres, hein, fête de l'Europe au sein de l'Union, glorification de la guerre à Moscou.
Bizarre, c'est bien le bon adjectif, Florence. Ce 9 mai a été le plus contrasté qu'on puisse imaginer. Tourné vers un avenir à écrire d'un côté, désespérément emprisonné dans un passé réécrit de l'autre côté. Ou, si vous préférez une métaphore cinématographique, c'était « Retour vers le futur » et « Un jour sans fin » sur deux écrans parallèles. Sans oublier la guerre elle-même qui se poursuivait sans interruption durant les célébrations. S'il fallait une démonstration facilement compréhensible pour tous que nous sommes en train de vivre un moment charnière pour notre continent, en voilà une de très parlante. En même temps, il y a un point de repère partagé entre l'Union européenne, la Russie et l'Ukraine, c'est le nationalisme. Même dans la troisième décennie du XXIe siècle, l'idéologie nationaliste reste un axe structurant pour penser les relations internationales.
Mais n'était-ce pas justement l'adjectif de la déclaration Schuman et de toute la construction européenne de surmonter le nationalisme ?
Si, bien sûr, même s'il est sans doute plus judicieux de dire dépasser le nationalisme plutôt que de surmonter. Ou iriez-vous jusqu'à dire qu'au cours de ces 7 dernières décennies, le nationalisme a disparu dans les États membres de l'Union, enfoui sous les progrès de l'intégration européenne?
Non, c'est vrai, il est toujours là, dépassé, peut-être même affaibli, mais toujours sous-jacent. Hein.
C'est ça. Le nationalisme, et c'est le secret de sa réussite insolente sur le marché des idéologies, est d'une grande souplesse. Il se coule dans les contextes les plus divers et il apparaît en plusieurs variantes.
Et vous faites une distinction entre patriotisme et nationalisme ?
Non, je ne la fais pas. Je sais que c'est une distinction très populaire et réconfortante qui permet aux dirigeants politiques de toucher la corde sensible de la cohésion nationale, mais elle ne tient pas la route sur le plan de la conceptualisation scientifique. Elle sert surtout à bien différencier entre nous, les bons patriotes, et eux, les méchants nationalistes. Non, non, ce jour du 9 mai dans l'Europe de 2022, on a vu la coexistence simultanée des trois nationalismes très différents. On peut même les classer par ordre chronologique, un peu comme les différentes variantes du virus de la Covid. Le plus récent, le nôtre en fait, est ce que j'appelle le nationalisme apprivoisé. Maîtrisé sur le plan politique, refoulé dans la recherche des compromis européens, minoritaire, quoique très audible sur le plan électoral, il s'exprime davantage sur le niveau culturel folklorique, comme lors des grands événements sportifs. C'est un nationalisme qui se suffit à lui-même, presque anodin, mais qui peut s'enflammer soudainement sur l'interprétation de l'histoire, par exemple, ou encore sur la question migratoire et les vieux réflexes souverainistes. Ce qu'on voit à l'œuvre dans la Russie de Vladimir Poutine et dans son discours est ce qu'on peut qualifier de nationalisme classique, héritage des totalitarismes du XXe siècle, à la fois ethnique et culturel, teinté de paranoïa, de ressentiment et d'amertume, un nationalisme qui a besoin d'ennemis, qui est nourri de nombreux mythes et d'une longue liste d'humiliations survenues dans le passé, réel ou imaginaire, peu importe. C'est un nationalisme mobilisé en permanence par le pouvoir, comme une irritation ou une inflammation qu'il ne faut surtout pas atténuer et encore moins guérir. Et enfin, ce que nous montre l'Ukraine en ce moment, c'est un nationalisme archaïque qui rappelle, ravive en quelque sorte les origines de cette idéologie. La lutte armée pour leur autodétermination démocratique est en quelque sorte très comparable à celle livrée par les conscrits français de 1792 qui inventèrent le slogan « Vive la nation » à la bataille de Valmy. Le nationalisme ukrainien emprunte en même temps au nationalisme promu par le romantisme allemand du 19e siècle et en défendant la singularité d'une communauté culturelle et linguistique.
Ça ressemble à un voyage dans le temps, hein ?
Entièrement d'accord. Je tiens à préciser qu'il n'y a rien de condescendant dans l'adjectif archaïque que je viens d'utiliser au sujet de l'Ukraine. On pourrait aussi bien dire originel ou primitif. En tout cas, nous aurions tort d'avoir quelque complexe de supériorité, que ce soit simplement parce que nous aurions réussi à laisser derrière nous un nationalisme qu'on voit ressurgir avec regret à l'est de notre continent. Il faut se méfier de ce genre de réflexe. Avant de devenir une force sombre et destructrice au XXe siècle, et un obstacle majeur à un multilatéralisme mondial efficace au XXIe, le nationalisme était une force d'émancipation essentielle dans l'émergence de la démocratie libérale moderne. Comme vous dites, cette guerre en Ukraine, c'est un voyage dans le temps.
Merci beaucoup, mon cher Albrecht Sontag. On vous retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.